Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, j'espère que votre été se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque où elle s'est déroulée, qui a provoqué un débat sur le retour de la peine de mort et la récidive. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Pierrot le Fou. Pierre Baudin est né le 30 décembre 1947 à Obernai en Alsace. Il est le 11e enfant sur 16. Oui, 16, c'est beaucoup. Il a eu une enfance plutôt heureuse, mais on n'en sait pas plus, on n'a pas vraiment de détails sur son bonheur d'enfant. Mais on sait qu'à 18 ans, il est victime d'un accident de mobylette qui, selon sa famille, l'a plongé dans le coma pendant un mois, mais selon son dossier médical, il a eu seulement une commotion cérébrale. Donc qui a raison, je sais pas, et ça a pas trop d'influence sur l'histoire, donc on va dire qu'on s'en fout. C'est à 20 ans que Pierre débute son parcours criminel et il saute à pieds joints dans les profondeurs. Il se dit pas « tiens, je vais frauder le train aujourd'hui », non, non, non. Il vole, il braque, il viole, et il va même jusqu'à la tentative de meurtre. Il dit notamment avec une de ses victimes qu'il va la tuer et la jeter dans la rivière, et il a violé la sœur de l'une de ses compagnes alors qu'elle rentrait de son accouchement. Sa violence physique et sexuelle l'empêche un peu de mener une vie normale, hein, on s'en doute, hein, quand t'as un détraqué, t'as pas ta petite maison avec les belles fleurs dans le jardin. Mais il aura tout de même 4 enfants, et ces 4 enfants, j'espère qu'ils vont bien, parce qu'avec un daron pareil, ça doit pas être facile. Il fait à partir de 1973 plusieurs séjours en prison et en hôpital psychiatrique. Il est incapable de rester libre plus de quelques mois. La prison et l'hôpital psychiatrique ne le calment pas du tout, et l'un de ses co-détenus raconte même que Pierre envoyait des lettres d'amour à sa fille, la fille du co-détenu, qui avait 9 ans. Et il l'a laissé faire, apparemment. Enfin, je sais pas, mais c'est très très bizarre. En 1976, Pierre est diagnostiqué schizophrène. Il dit à un psychiatre qu'il a volé pour s'acheter un hélicoptère et mange même ses excréments. C'est... Oh mon Dieu. Non, je peux pas imaginer. Je peux pas imaginer. Je m'excuse de vous avoir dit ça, parce que si vous êtes en train de manger, franchement, je suis désolée. Alors, en 1980, il est quand même libéré de l'hôpital psychiatrique pour une raison qui m'échappe, et il reprend immédiatement ses activités criminelles. Donc, il est pas si fou que ça, finalement, le coco, hein. Il est de nouveau arrêté en 1989 et se fait de nouveau passer pour fou. Cependant, les experts n'arrivent pas à déterminer s'il fait exprès ou non, alors dans le doute, il est replacé en hôpital psychiatrique. Là-bas, il devient mutique et catatonique, au point où il se déplace seulement en fauteuil roulant. Pourtant, c'est bien avec ses deux jambes qu'il réussit, en décembre 1992, à s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Donc ses jambes marchaient parfaitement bien, mais il se déplaçait en fauteuil roulant. Voilà. Donc en décembre 1992, il se lève et il se dit « tiens, je vais aller prendre l'air ». Et il reste 3 jours en cavale. Il vole une voiture, il braque une banque et il achète un fusil de chasse dans une armurerie. Le 3e jour de sa cavale, il s'engage dans une course-poursuite avec les policiers. Les policiers tirent et lui, il réplique en roulant. Donc c'est pas très code de la route tout ça, hein, mais bon. Les policiers arrivent à crever les pneus de la voiture de Pierre. Et celui-ci tire une balle dans la tête d'un policier qui s'en sort. Voilà. C'est un badass, donc une balle dans la tête, ça l'arrête pas. Et d'ailleurs, petit aparté, je pense que si tu survis à un truc pareil, on devrait te donner un super pouvoir. Parce que là, le monde dans lequel on vit, il est trop méchant. Et j'arrive pas à admettre que quand tu survis à une balle dans ta caboche, tout ce que t'as, c'est des fleurs à l'hôpital et une lettre des impôts quand tu rentres. Non. J'accepte pas ça. Bref, revenons à nos moutons, à notre petite course-poursuite. Donc Pierre arrive à s'enfuir et à quelques kilomètres, il enlève une femme et la viole à plusieurs reprises avant de la relâcher. Parce que son sens des priorités, voilà quoi. Il est poursuivi par la police, mais il dit quand même... « Oh, j'ai une érection, autant ruiner la vie de quelqu'un d'autre. » Alors, quelques kilomètres plus tard, il force un barrage de gendarmes qui tirent sur la voiture. Pierre arrive à s'enfuir dans la forêt, mais les gendarmes arrivent enfin à le neutraliser. Pfiou! Enfin, la menace est sous contrôle. Le 15 mars 1994, Pierre passe devant les assises de Colmar, où il est de nouveau fou, entre guillemets. Il parle de manière totalement décousue et il veut absolument qu'on lui rende sa mobylette. Il a vraiment une obsession avec sa mobylette. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il est condamné à 30 ans de prison. Voilà. Malheureusement, un vice de procédure permet d'annuler ce verdict, ce qui conduit à un second procès. Et cette fois, Pierre, à ce second procès, il va parfaitement bien. Il n'est pas fou, il parle plus de sa mobylette, il s'excuse, il est parfaitement en possession de ses moyens et il se comporte normalement. Il prend quand même 28 ans. Cependant, un autre vice de procédure permet la réduction de cette peine à 20 ans de prison et il obtient plusieurs remises de peine, ce qui fait qu'il est libéré sous contrôle judiciaire le 15 mars 2004. Et c'est là que la tragédie commence. Le 18 juin 2004, à Rhinau, en Alsace, Jeanne-Marie Quégelin, 11 ans, disparaît en début d'après-midi. Son vélo est rapidement retrouvé par son frère près des courts de tennis du stade local. La police se met tout de suite en mode branle-bas de combat et plusieurs gendarmes et un hélicoptère sont mobilisés. Une grande battue est organisée et des avis de recherche sont placardés partout. Les cours d'eau sont sondés, mais on n'y trouve rien. Et l'inquiétude monte dans le village au point où la fête de la musique est annulée. 3 jours plus tard, des enfants du village voisin disent avoir vu le corps d'une petite fille dans le coffre d'une voiture avec des gens autour. Ces gens, qui s'avéreront être des gens du voyage, appelés vanniers en Alsace, sont retrouvés et interrogés. Le plus jeune craque et dit que deux de ses demi-frères auraient renversé Jeanne-Marie et l'auraient mise dans le coffre. La famille est déjà connue dans le village, hein. Ils vivent dans un taudis et ils ont mauvaise réputation. Donc leur maison est fouillée, mais rien n'est trouvé. Et en plus de ça, les témoignages sont de plus en plus décousus. Et le témoignage du plus jeune, qui est le témoignage principal puisque c'est le premier à avoir avoué, change de version, change de chronologie. Et on apprendra plus tard que, en fait, ce plus jeune vanier est déficient mentalement. Les policiers s'accrochent quand même à cette piste. Et le 25 juin 2004, une autre enfant disparaît. Julie Charge, 14 ans, part faire du vélo avec son amie, mais ne revient pas. Ses parents puis tout le quartier se mettent à sa recherche et les gendarmes sont prévenus. Le 28 juillet, on retrouve le vélo de Julie en pleine forêt dans un ruisseau. Les gens commencent à faire le lien avec la disparition de Jeanne-Marie, parce qu'elle aussi était en vélo. On a retrouvé le vélo. C'est inquiétant. Entre ces deux disparitions, le 22 juin, le corps d'une femme de 38 ans est retrouvé dénudé dans un ruisseau à Indisheim, ou Indisheim. Mais aucun lien n'est fait avec les deux autres affaires à cause de l'âge de la victime. Le 29 juin, le corps de Jeanne-Marie est malheureusement retrouvé à Valf par des enfants. Elle porte des traces de strangulation, pardon, d'agression sexuelle et de mutilation. Le corps a été retrouvé à 30 km du lieu où les vanniers avaient prétendu s'en être débarrassés. Et il a été placé là récemment. Donc les enquêteurs s'accrochent toujours à la piste des vanniers et envisagent l'implication de complices. Ils font aussi le rapprochement avec l'affaire Edwige Vallée, la femme de 38 ans qui elle aussi avait été retrouvée dans un ruisseau, car les mutilations, pardon, qu'ont subies les deux corps sont similaires. Au niveau de Julie, un témoin se manifeste et dit l'avoir vu le jour de sa disparition discuter avec un homme au volant d'une Ford Escort blanche. Il se trouve que l'une des personnes que les enquêteurs surveillent a ce type de véhicule. Et près du vélo de Julie ont été retrouvés des débris qui semblaient correspondre à un clignotant de voiture et du sang est retrouvé sur le guidon du vélo de Julie. Et ce sens ce n'est pas celui de Julie. Le suspect à la Ford Escort vit dans une caravane sur le terrain d'un ferrailleur, c'est pas la grande vie, hein, dans le village de Burgheim, et c'est évidemment Pierre Baudin. C'est lui. Donc il est interrogé, mais sans preuve, il finit par être relâché. Mais quelques jours plus tard, des analyses ADN prouvent que c'est lui qui a laissé son sang sur le guidon du vélo de Julie. Donc le 30 juin, il est interpellé, mais en garde à vue, il nie connaître Julie. Il est quand même présenté au juge d'instruction qui le met en examen. Le 3 juillet 2004, un viticulteur découvre le cadavre de Julie dans un ruisseau à Neutalten. Les blessures et les mutilations sont les mêmes que chez Jeanne-Marie et Edwige, donc naturellement les policiers font le lien, enfin les gendarmes. Les gendarmes font le lien. La caravane et la voiture de Pierre sont fouillées de fond en comble par les enquêteurs, et dans sa voiture on retrouve du sang appartenant à Jeanne-Marie et un cheveu appartenant à Edwige. Une fois que la nouvelle se répand au niveau de Pierre, l'Alsace est en colère. Elle ne comprend pas pourquoi Pierre était dehors, elle ne comprend pas pourquoi un récidiviste a été libéré aussi vite alors qu'il avait pris 20 ans de base, et beaucoup réclament la peine de mort pour Pierre Baudin. Le 10 juillet, une marche silencieuse est organisée par les parents de Julie, et face à la clameur populaire, les procureurs se rendent à Schirmeck pour essayer d'apaiser la colère des gens envers la justice, mais ils n'y arrivent pas vraiment. La colère reste et restera même après la condamnation de Pierre. D'ailleurs, revenons à lui. Des reconstitutions sont organisées, mais elles n'arrivent pas à exonérer complètement la famille de Vanier qui a été accusée au début. Oui, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours accusés. Puisque un cheveu de Jeanne-Marie est retrouvé chez eux. D'ailleurs, Pierre aussi est un Vanier, mais il nie connaître cette famille. Son procès s'ouvre le 11 avril 2007 à la cour d'assises de Strasbourg. Les Vaniers n'ont pas complètement été dédouanés, donc ils comparaissent tous ensemble. Yeah ! Tout le monde nie les crimes, et les Vaniers nient connaître Pierre, que les preuves accusent. Ce dernier accuse les gendarmes d'avoir placé les preuves chez lui et sur le guidon du vélo de Julie, parce qu'apparemment les gendarmes, ça a que ça à foutre. Il prend quand même une perpétuité avec une peine de sûreté incompressible de 30 ans et les Vaniers finissent par être relaxés. Pierre Baudin fait appel, mais sa peine est confirmée. Il devient alors le premier détenu de France à être condamné à une perpétuité incompressible qu'il purge encore aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire sur Twitter, @mwacpod. Ou directement sur le site web murderwinecheese.com. D'ailleurs, si vous voulez me faire une suggestion par rapport à une affaire que vous voulez que je traite, vous pouvez aussi le faire sur le site. Et si vous voulez faire un don, vous pouvez soit passer par le site, soit directement passer par le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de trouver un billet de 10 par terre. Salut !